Ben bonjour, voilà, je suis Philippe Zmirou, donc je dirige l'école d'ESMOD dans le nord de la France et particulièrement à Roubaix. Voilà, Roubaix pourquoi? Parce que avec son côté patrimonial, entreprise, textile, qui sont encore bien implantés, voilà. ESMOD c'est une belle histoire, on est une école bien sûr où on forme les futurs stylistes, modélistes, mais pas que. On forme aussi les futurs marketeurs, communicants. Là, c'est la partie business, parce que nos métiers ne s'arrêtent pas, comme tous les métiers d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que des designers ou que des créatifs, mais parce que derrière, il y a toute la partie aussi business. Et on les forme à ça aussi.
Et donc, cette école, elle est, dans l'histoire, assez unique?
Elle est plus qu'unique, en fait. Elle a été unique il y a 184 ans déjà. Voilà ce qu'on fait de nos 184 ans d'existence. Les écoles de mode, ça n'existait pas en France, nulle part dans le monde. Et l'école a vu le jour sous le Second Empire par un génial monsieur, un génial inventeur, un génial couturier, Alexis Lavigne, qui est le fondateur de l'école. Je pourrais vous en parler des heures, mais Alexis Lavigne était déjà à la base le maître tailleur de l'impératrice Eugénie, l'épouse de l'empereur Napoléon III. C'est lui qui l'habillait. Mais au-delà de l'habiller, on lui doit encore aujourd'hui beaucoup de choses, et sur la planète, on lui doit beaucoup de choses encore. C'est lui qui a breveté, inventé le centimètre souple, le mètre ruban, qu'on a toutes et tous, soit dans notre boîte à couture, soit pour les bricoleurs, dans leur boîte à outils. C'est lui qui l'a breveté. Je reviens à l'impératrice Eugénie, et lui étant son maître tailleur, comme l'impératrice était tout le temps en mouvement, par ses déplacements, de par sa fonction, il devait à chaque fois attendre qu'elle revienne pour à nouveau reprendre les retouches de ses vêtements, de ses robes, etc. Et le coup de génie qu'il a eu, il a dit, bah tiens, je vais essayer de mouler son corps. Il a trouvé la technique. Donc, le premier buste en dur, ça lui a permis donc, l'impératrice pouvait voyager, et lui continue à travailler sur ses créations. Et encore aujourd'hui, dans le monde entier, c'est grâce à lui que les bustes, alors, qu'on trouve dans n'importe quel atelier, que ce soit dans le prêt-à-porter ou dans le luxe, on trouve des bustes, et ben on les doit à Alexis Lavigne, voilà. Le centimètre souple, ça je l'ai dit, voilà. Et aussi sa grande vision, et pourquoi l'école, j'y arrive, sa grande vision. Il s'est posé un jour la question, tout le monde, depuis la nuit des temps, on ne fait que des vêtements uniques. Personne ne savait faire autre chose que cela, mais sur les quatre coins de la planète. Lui a trouvé la technique, comment faire en sorte qu'un vêtement fait, je peux trouver le moyen de démultiplier ce vêtement dans des tailles différentes. Il a trouvé la technique. Et ça a marché. Mais pour être garanti, et c'est là que c'est un grand visionnaire, pour être garanti, et il savait que ça allait être l'avenir du vêtement, donc je vous parle toujours du Second Empire, hein. Elle dit, le seul moyen pour que ça se propage sur la planète, c'est créer une école à Paris. Après, M. David Massur est décédé. Sa descendance avait repris. Voilà, qui était toujours aussi dans sa fille, déjà travaillé dans des maisons de couture, etc., etc. Et dans les années 70, la lignée de M. Lavigne s'est un peu éteinte, mais à l'intérieur d'ESMOD, voilà, il y avait des personnes donc qui connaissaient, qui avaient la descendance de Lavigne, pour les avoir rencontrés, et travailler aussi et collaborer avec, eh bien, elles ont repris la tête d'ESMOD. Monsieur Nino Satoru, qui aussi était le premier franchisé, le premier à avoir développé une école ESMOD en dehors de la France, donc dans les années fin 60, début 70, donc avait ouvert ESMOD à Tokyo et Osaka. Ça s'est développé. D'autres ont souhaité ouvrir les campus ESMOD partout sur la planète. Voilà, aujourd'hui, ESMOD, on compte 18 campus, 6 en France, Lyon, Rennes, Bordeaux, Roubaix, Paris, bien évidemment, et Pantin. Et à l'international, donc je vous parlais de Tokyo, Séoul, Kuala Lumpur, Oslo, etc., etc. En fait, l'école s'implante là où il y a vraiment soit de la mode, soit de l'industrie textile surtout. Parce que l'objectif, in fine, c'est que nos étudiants travaillent.
Reprendre un exemple particulier dans le monde, c'est Guangzhou, Canton. Oui. Donc là, de l'industrie, il y en a, bien sûr.
Hein. On a une école à Guangzhou aussi. Voilà. Donc, on est implanté aussi en Chine. Voilà. On n'irait pas s'installer, bien sûr, avec tout le respect de certains pays ou de certaines villes, dans certains pays, là où il n'y a aucun intérêt de s'y implanter, parce qu'il n'y a pas d'industrie textile. Ça serait leurrer les jeunes et futurs diplômés. Voilà. Non, non. L'école est internationale, d'autant plus que, et ça c'est la grande chance qu'ont nos étudiants, c'est qu'ils peuvent décider de faire leur première année à Roubaix, décider de faire leur deuxième année à Tokyo, et revenir à Roubaix, ou aller à Paris, pardon, faire leur troisième année. Pourquoi ? Parce que les programmes sont identiques partout. Et ça, c'est parce que ça a toujours été le souhait depuis 184 ans. La France nous honore de cela, d'ailleurs, parce qu'on diffuse un savoir-faire français. Voilà. C'est ESMOD, sa méthodologie, remise à jour tous les ans, bien évidemment, parce que la mode évolue et les industries évoluent. Et c'est pour cela que tous nos diplômes sont reconnus. RNCP, ça comme beaucoup. Mais le Graal du Graal, et c'est quasi impossible ou très rare pour une école dite privée, d'avoir d'autres reconnaissances par le ministère de la Culture. Alors moi, perso, j'en suis d'autant plus fier parce que, enfin, on considère que la mode fait partie de la culture. Ce qui n'était pas évident hein, pour certains ou certaines. La mode, non, c'est pas de la culture. Ah bon ? Ah bon ? Et ben, moi, quand je vois des expos dans les musées, Schiaparelli, Poiré, etc., ça rentre dans des musées, donc c'est de la culture. Et je reviens à un autre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui reconnaît avec un véritable diplôme, autre que RNCP, parce que ça c'est aussi reconnu, nous reconnaît au même titre qu'un des universités. Pourquoi ? Un, par l'ancienneté de l'école, nos programmes pédagogiques, nos taux de placement qui sont quasi à 90-96%, et surtout, qu'ils ont validé définitivement par décret, c'est que ESMOD est un patrimoine français et ce patrimoine est préservé et il le diffuse dans le monde entier.
Est-ce que selon les endroits d'implantation, il peut y avoir des déclinaisons de la mode par rapport à des ambiances locales, à des couturiers locaux ? Je pense au Japon, il y a des gens extraordinaires aussi au Japon.
Alors très 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 bonne question. Quand je vous disais tout à l'heure que nos programmes sont identiques partout, mais bien évidemment, nos écoles dans le monde doivent garder un objectif, mais cet objectif peut être atteint en fonction, bien sûr, de la culture locale, évidemment, du marché local. Bien évidemment, vous citiez le Japon comme exemple. Le Japon, c'est une culture déjà différente de l'Europe, qu'on ne peut en aucune manière comparer. Moi, je dis toujours à ceux ou celles qui rêvent d'aller au Japon, je leur souhaite d'y aller, bien évidemment, parce que moi, j'adore quand je me déplace au Japon. La première fois, j'ai pris une claque, mais une bonne claque, hein, positive. J'ai adoré. Mais on m'avait prévenu, Philippe, n'essaie surtout pas de transposer des choses dans ton esprit occidental. Tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Mais ils avaient bien raison. C'est ce que j'ai aimé, en fait. Donc, bien évidemment, au Japon, comme à Séoul, d'ailleurs, en Corée, c'est leur créativité, leur technicité qui va être, bien sûr, adaptée, parce que c'est l'ADN du Japon. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, des créateurs japonais célèbres dans le monde, en France, comme des garçons, Yuji Yamamoto, Kenzo, leurs vêtements et leurs collections sont diffusées partout dans le monde, et avec un franc succès, parce que on aime leur style. Tout comme eux, à l'inverse, aiment le style aussi français. Voilà. Donc, ESMOD adapte bien évidemment sur les campus dans les pays, bien sûr à l'industrie, à une culture, parce qu'ils connaissent parfaitement leur cible. Et d'ailleurs, on a énormément de chance cette année, parce que tous les ans, je souhaite que les promotions soient parrainées. Là, aujourd'hui, il va y avoir plus de 150 professionnels de la mode qui viennent de Bruxelles, de Paris, bien sûr de la région, juger, apprécier et noter les collections. Mais moi, je souhaite chaque année que les promotions soient parrainées par quelqu'un de pointu. Voilà, les années précédentes, j'ai eu Chantal Thomas, Jean Cucci III, la maison Fendi, etc. Bon, bref. Et là, cette année, beaucoup, beaucoup de chance. On parlait du Japon. Donc, cette année, la promotion, il est présent là, est parrainé par Comme des garçons, célébrissime maison japonaise que tout le monde connaît, du plus jeune au plus ancien. Voilà. Et quand j'annonçais à nos étudiants, futurs diplômés et professionnels, eh bien voilà, la présidence et le parrainage va être par Comme des garçons. Ils ont tous, pour certains, hurlé de joie, pour d'autres, ont fendu en larmes, de joie aussi. Hein. Ils y croyaient pas. Voilà. Et en plus, le représentant de la maison Comme des garçons qui est là, Pierre-Henri Stock, est un diplômé d'Issy-le-Roubaix. Voilà, l'an passé aussi. Parce que ça aussi, je veux mettre à l'honneur nos réussites locales. C'est important.
Donc, Roubaix a été une grande capitale textile. Je pense qu'à ce moment-là, évidemment, trouver en adéquation avec la production des idées nouvelles pour la mode, ça pouvait être important, nécessaire. Après, on connaît la suite de l'histoire. Est-ce que le fait que la Chine se soit développée en termes d'industrie textile amène aussi ce pays à vous rechercher pour accompagner ce développement technologique industriel par ce qu'on appelle la création de mode?
Excellente à nouveau question. Alors, Roubaix, je commençais par Roubaix. En effet, vous avez raison. Roubaix, depuis le 15e siècle, hein, suite à un décret que le roi avait signé, Roubaix était la seule ville qui avait le droit d'user de toute laine. Ça voulait dire quoi? De faire l'industrie de la laine. Bon, ça a duré pendant des siècles. Roubaix, n'oublions pas, était le fleuron français, la ville la plus riche de France. Voilà, en termes d'industrie, de population, bref. Mais on pense toujours que la mode et que Roubaix, du coup, ont décliné à cause et uniquement dans l'industrie de la mode. C'est faux. En fait, nos industries ont commencé à décliner dans les années 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises sont entrées dans l'ère du marketing et du business, vraiment, à fond. C'est-à-dire business de masse, faut produire. La France n'a pas pu suivre. Mais surtout, pour revenir aussi à Roubaix, et vous parliez de la Chine, eh bien, ils ont piqué l'outil des machines. Exemple, vous allez à la manufacture ici, le musée de la manufacture, il y a encore les métiers à tisser de l'époque, etc. etc. Ben, les Chinois ont piqué l'idée et ont développé en masse. Faire concurrence dans les années 80 à ça, c'était un peu compliqué. Mais, et ça, je suis en phase à 1000%, parce que moi, je ne suis pas un nordiste. Je suis du Nord, moi, j'étais à Paris. Et quand je suis arrivé à 30 ans, pour ouvrir l'école, et à 30 ans, donc c'était vraiment le déclin de toutes ces industries, un monsieur que je remercie encore aujourd'hui à votre micro, Jean Duforest, la ville de Roubaix, le maire, paix à son âme, André Diligent, on dit « Ok ». On va pas se morfondre, on va pas un peu rester notre sort. Et Jean Duforest a dit, ils nous ont piqué nos machines, ils nous piqueront pas notre cerveau. Donc dans notre cerveau, c'est la créativité. Préservons-la. Et pour être sûr de la préserver, faut qu'à terme, court, moyen, long terme, faut former des jeunes à cela. Il n'y a qu'une école qui doit s'implanter à Roubaix, c'est S-Mode. Voilà, je vous résume comment S-Mode a ouvert à Roubaix. Moi, donc du coup, de Paris, j'ai atterri ici. Je suis tombé directement en amour et de cette ville et de la région. Et quand je vous ai dit Jean Duforest, André Diligent, j'ai tout de suite ressenti et apprécié, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de misérabilisme ici. À Paris ou dans d'autres régions ou dans d'autres pays du monde, on va se morfondre, on va pleurer sur notre sort. Mais quelle solution? Il y a toujours des solutions. Et ça, au quotidien, et encore 30 ans plus tard, c'est toujours le même cas. Bon, ça, c'est fini, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut refaire? Je vais vous faire une suggestion aujourd'hui.
Dites-moi.
Je suis allé visiter la cité de la dentelle et de la mode, qui est à Calais. Et là, j'ai vu, alors j'ai posé des questions à la responsable et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a encore un lycée professionnel qui forme aux techniques ? Elle m'a dit non, il n'y en a plus, il n'y avait pas assez de monde pour former. Donc on nous a fermé cette section. Et nous, en termes de musée, je parle de la cité, on a récupéré la mission, mais on n'a plus que 2 apprentis. D'où ma question qui est en phase justement avec, pour moi, ce drame que j'ai ressenti chez cette personne qui porte cette aventure et puis cette culture et puis ces machines qui sont là, on pourra les définir, mais est-ce que vos créateurs ne pourraient pas, puisque ceux qui sont dans la région pourraient s'imprégner aussi de Caudry, de Calais, pour mettre une petite pièce de dentelle dans leur collection ?
Alors, je vous réponds tout de suite. Bien évidemment, nos étudiants, et je vous invite à faire le tour de chaque étudiante et étudiant futur diplômé, de fin de bachelor, licence, mais c'est un impératif. On ne leur impose pas. Si la dentelle n'a pas lieu, et raison d'être, ou comme du cuir, ou comme du denim, c'est pas dans l'ADN de leur collection, leur concept de collection, on va pas leur imposer. Mais tous les ans, on est en partenariat avec BRAC, avec Potencier, donc des denteliers, etc. encore, etc. Solstice. Voilà. Donc, notre devoir, et c'est ça aussi qui a fait que, je vous parlais tout à l'heure de notre reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur, ça fait aussi partie de cela, cette reconnaissance. On préserve les savoir-faire. Ça, c'est notre ADN premier. Et on l'adapte au XXIe siècle. C'est pas reprendre la dentelle pour faire ce qu'on faisait avec la dentelle sous le Second Empire. Aucun intérêt. C'est ça notre force. Et vous me disiez, il n'y a plus d'école de formation sur les dentelles. Oui, à Paris, il y en a. Il y a le SAGE, etc., etc. Voilà. Il y a encore des centres de formation. Et le SAGE, par exemple, c'est le plus, comment dirais-je, brodeur. C'est pas un dentelier. Remarquez, c'est un brodeur. Voilà. Mais tous ces savoir-faire, on doit les préserver. Vous me disiez qu'il n'y a plus que 2 personnes. Eh bien, c'est déjà bien. Vous savez, depuis Louis XIV, le monde nous envie cela, nos savoir-faire. Il y a, je crois, à vérifier, mais je ne suis pas loin, c'est 243 ou 246. 246 savoir-faire français qui vont de la plumacier jusqu'à, ça je l'avais découvert, je ne sais même pas, comment sous Louis XIV, ont récupéré les tiges de houblon pour en faire de la marqueterie. Eh bien, c'est préservé encore aujourd'hui. Il y a une seule personne en France qui est capable de le faire. Et elle voyage partout dans le monde et elle est réclamée par les maisons Hermès, Dior, etc. pour faire des pièces de merchandising exceptionnelles. Et donc, depuis Louis XIV, par décret, de roi en roi, c'était une obligation. Le nouveau roi devait signer ce décret par obligation. On est passé en République des présidences. Chaque nouveau président élu en France doit signer ce décret pour préserver les 246 métiers savoir-faire. Eh bien, qu'en est 2, même pour les denteliers que vous dites, en tout cas en formation, ben, je préfère entendre cela que 0. 2, eh bien, je me dis, 2 puissance 2, ça fera 4. 4 puissance 4, ça fera 1. Et voilà, etc. Ça. Et nous, à ESMOD, on leur inculque cela, matin, midi et soir. Et puis, je vais vous dire une autre chose. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Moi, je suis admiratif de ces jeunes, parce que c'est eux qui font le monde de demain. Il faut leur laisser plus la parole. Moi, je suis un peu triste, dans ce monde, de voir toujours des anciens croire que c'est eux qui ont la parole divine. Je me bats. Je me dispute, même des fois, avec des personnes politiques, même si j'en fais pas. Je dis, faites ce que je dis, parce que je fais, mais déjà, surtout, ayez un peu plus de politique pour cette jeunesse. Vous et vous, avec tout le respect que je vous dois, et par rapport à votre âge, parce que aussi on apprend des anciens, ok ? Mais pensez à ces jeunes. C'est pas vous qui faites le monde de demain. C'est eux qui le font. Moi, être au contact d'eux quotidiennement, mais c'est un pur bonheur, c'est eux qui m'apprennent. Alors, des fois, je rigole avec eux, ils me font rire. Comment je leur parle de ceci, de cela, RSE. Voilà, ouais, mais Philippe, mais nous, c'est déjà intégré dans notre tête.
Alors justement, on vit une période de contraintes, de difficultés économiques. On pourra revenir sur comment s'en sort la mode dans ces difficultés-là. Mais en même temps, il y a de vrais challenges qui se mettent en place. Alors je vais donner deux exemples. Un, c'est de créer des gammes, des vêtements plus durables. Donc on verra après si mode et durabilité,
ça fonctionne très bien.
on va voir. Et puis la deuxième chose, c'est certaines marques, on va dire, hein, certains couturiers, qui remettent d'anciennes collections, qui remettent en vente des vieux vêtements en disant « c'est encore nous, on continue de les vendre, même si ça a déjà servi ». Donc on sent que l'économie nécessite d'évoluer vers peut-être plus de durabilité, le respect aussi des matériaux, de la nature, etc. Donc tout ça, je pense que ça peut être stimulant.
Ça l'est d'autant plus. Alors à nouveau, pour la troisième fois, je vais vous dire, je pense que je vais vous confier mon poste de direction, parce que je pense que vous êtes très calé dans ces métiers. Nous, ça, c'est aussi dans nos formations à S-Mode, obligatoire. Après, vous posez la question, quand on voit aujourd'hui, que ce soit dans le luxe ou le prêt-à-porter, ils subissent des crises. Je réponds toujours à cette question, à cela, en disant, mais c'est normal, ce sont des cycles de vie. Mais pas que dans la mode. Il y a des entreprises qui ont duré, qui à un moment donné n'ont pas su s'adapter, et bien qui ont arrêté. Mais ça, c'est normal, et d'autres naissent. Des nouvelles marques naissent. Voilà. Et sur la mode responsable, ce qui est quelque part agaçant, vous citiez Chine tout à l'heure, Chine, mais les marques en France, que ce soit dans la mode enfantine, au Kylie par exemple, moi, je collabore avec eux depuis, parce que Jean Dufouré était le PDG d'Okaïdi. Mais j'ai ce souvenir, il y a 15-20 ans, mais déjà, ils avaient des normes, ils imposaient à leurs fournisseurs ces normes-là, etc., etc. Le luxe, on parle de luxe, c'est les premières aussi à avoir intégré cela. Je vous donne un seul exemple pour le luxe, parce que bon nombre de nos étudiants diplômés d'ici travaillent dans le luxe. Que ce soit chez Chanel, que ce soit chez Comme des Garçons, que ce soit chez Hermès, Vuitton, etc. Mais tous les ans, ils m'appellent, voilà Philippe, on a des stocks de tissus, d'accessoires, boutons, machin, nanana, on va te les envoyer pour tes étudiants. Mais c'est pas un petit carton que je reçois, c'est des semi-remorques qui arrivent devant l'école. Donc ça, c'était déjà d'être responsable. Voilà. Donc, ça existe. Je pense qu'il faut arrêter de prendre ces entreprises pour des idiots. Pas vous, hein, je vous rassure. Le consommateur, il le sait. Mais en dehors de l'Europe et de la France, allez vous attaquer plutôt à ces gens-là. Chine et compagnie. Peut-être. OK ? Autre exemple très récent. Vous savez que le Tour de France part de Lille cette année, de la région. Très bien. Il y a une équipe cycliste, Cofidis, qui existe depuis des décennies. Donc français. Donc tous les ans, ces cyclistes concourent au Tour de France. Eh bien, on nous a contactés, nous, S-Mode, pour, comme ça vient, le départ est dans le Nord, ils voulaient boucler une boucle. Donc, ils voulaient une création issue d'Esmode, parce que Esmode est dans le Nord, pour créer un t-shirt emblématique équipe française Cofidis, et pas aller chercher à l'autre bout du monde les créatifs. Ils voulaient que ce soit complètement circulaire. Et moi, je leur ai dit, il y a aussi des... ils ne connaissaient pas trop où on fait fabriquer, etc. Mais ils ont dit, nous, l'impératif, c'est que ce soit fabriqué aussi ici. Je n'ai pas de souci, il y a des entreprises ici qui fabriquent. Le Mailleux, sublime entreprise, aussi emblématique du Nord. Voilà. Donc, je leur ai dit, c'est le Mailleux. Pourquoi ? Implanté dans le Nord, entreprise emblématique, et ils font tout sur place. Du fil au tricotage, de la matière, à la teinture et à la fabrication. tout est fait sur place. Il n'y a pas du tout d'export à droite, à gauche, au bout du monde. J'envoie mes fils atteindre en Chine ou je ne sais pas où. Non, tout est fait sur place. Donc, ces entreprises, il faut les soutenir. Cofidis a dit bravo. Voilà. Et du coup, voilà, ça commence à être dévoilé dans la presse. Donc, les t-shirts vont être distribués pendant tout le Tour de France aux supporters Cofidis de l'équipe. Et les deux jeunes créatrices et les gagnantes sont issues des Sauts de Roubaix. Vous voyez, donc la boucle est bouclée. Donc tout a été fait, donc comme quoi c'est possible. De la création à la filature, au tissage, tissu, à la teinture, jusqu'à la fabrication et même au print, parce que les t-shirts, il y a un graphisme qui est imprimé dessus. C'est le maillot aussi. Donc c'est faisable.
Alors en région, on a aussi... Les cultures, hein, c'est une grande région agricole, etc. Et on cultive le lin, une plante magnifique quand elle est bleue, etc.
Tout à fait, je le sais.
Et donc ce lin, il part beaucoup à l'export. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de noble ?
Bien sûr. Bien évidemment, le lin, ici dans le Nord particulièrement, est de plus en plus développé. Et moi, des personnes sont venues me rencontrer il y a 2 ans, de cela en arrière, pour voir ce qu'on pouvait faire avec Ace Mode autour du lin. Eh bien, on l'a fait. Ça a commencé déjà par leur expliquer, donc des spécialistes auprès de nos étudiants, c'est quoi le lin, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça pousse, à quelle période ça pousse, et à quel moment on peut commencer à prendre le lin, comment après, voilà. Et là, donc moi, tout de suite, on a validé. Et ce jardin que là, vous voyez, eh bien, tous les étudiants sont venus, ils ont bêché, ils ont planté des graines, il y a 2 ans, et les petites fleurs bleues, c'était magnifique. Magnifique. Mais on ne s'est pas arrêté là. Les personnes sont revenues avec d'autres spécialistes, leur ont appris comment nettoyer, et comment créer maintenant. Donc ça aussi, c'est notre rôle. Moi, je n'accepterai jamais un projet, s'il n'est pas éthique, s'il n'a aucun sens pédagogique, aucun sens de vision, et qui est simplement mercantile ou purement... la personne qui pourrait proposer, je me récupère moi, la personne qui vous propose, je me récupère pour avoir de la pub. Ça, c'est hors de question. Il faut qu'il y ait un intérêt pour nos jeunes, qu'ils imprègnent, qu'ils comprennent. C'est le rôle de l'enseignement, tout simplement. Tout simplement. Il y a de quoi faire ici. On a tout devant nous. Oui, je sais que pour beaucoup, et pour moi le premier, c'est agaçant de se dire on a tout sur place. Mais merde, faut avoir les Mais quand on a les eh ben on y va. Et on le fait.
Donc à Roubaix, il y a d'anciennes friches industrielles qui ont été remises en fonction avec des petites entreprises justement qui travaillent dans ces domaines-là. Je suis allé en visiter une il n'y a pas très longtemps. Ça m'a assez ébloui de voir justement des gens qui retravaillent le lin, par exemple. Hein. Mais on peut imaginer que ce lieu se développe encore avec des vrais endroits pour présenter les collections de vos étudiants par la suite ou recréer un cœur dynamique. Parce qu'il y a eu un moment donné à Roubaix, la rue où il y avait magasins de mode, on va dire.
Maison de mode.
Mais je ne sais pas si ça existe encore, non.
Non, maison de mode, je peux vite vous en parler. Voilà, maison de mode est née à Roubaix, il y a presque 20 ans de cela. Beau projet, emblématique. Parce que déjà, il y a 20 ans, Roubaix était novateur pour dire, voilà, il faut réindustrialiser, il faut donner et accompagner des jeunes talents. Malheureusement, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que voilà, moi, pour moi, c'est une page qui est malheureusement tournée, mais qui va renaître de ses cendres, c'est évident. À un moment donné, quand vous n'avez plus de soutien, pouvoir public, mais comme toutes ces associations, mes sublimes tissus associatifs à Roubaix et ailleurs, dans le Nord, fermés les unes après les autres, mais qui ont développé des choses, mais somptueuses, pas qu'à Roubaix, mais partie de Roubaix, qui sont développées à l'international. Et du jour au lendemain, par des décisions purement pouvoir public, paf! Ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Parce que ça met des gens au chômage. Des personnes en plus qui faisaient des chiffres d'affaires. Ils étaient partis de zéro. Et grâce, exemple maison de mode, ils atteignaient au bout de 2-3 ans, des 4, 5, 6 millions de chiffres d'affaires. Jamais ça aurait été imaginable. Ça a été balayé d'un revers de main. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, merci à vous vraiment pour cette interview. Ça fait du bien de partager des valeurs et je pense que vous en avez. Merci à vous.